Bonsoir à tous. La surprise du jour de l'an dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Masque obligatoire à partir de 6 ans dans de nombreux lieux publics. Pas d'annonce du gouvernement, mais un décret au journal officiel. Reportage dans un instant à Marseille. La France prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne avec comme programme une Europe puissante et souveraine. Paris va devoir obtenir des soutiens dans ce journal également. Le message du pape François à Rome, la violence contre les femmes est un outrage à Dieu. Une nuit de la Saint-Sylvestre plus calme, moins de voitures brûlées, plus de personnes interpellées et une légion d'honneur qui fait polémique. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, distinguée pour son implication dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le temps pour demain, nuageux et humide. Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal.
France Inter.
La lutte contre l'épidémie de coronavirus s'intensifie en ce tout début d'année 2022 avec, à partir de demain, d'après-demain, lundi 3 janvier, le port du masque qui devient obligatoire à partir de 6 ans dans de nombreux lieux publics. Cela concerne les transports, les salles de spectacle, les gymnases et les salles de sport, ainsi que les musées et les bibliothèques, tous les établissements accueillant du public. Et en extérieur, les enfants de 6 ans devront porter le masque lorsque le préfet le demande. Le décret est paru aujourd'hui au journal officiel. Jusqu'à présent, l'obligation de porter un masque ne concernait les enfants qu'à partir de 11 ans. Et donc, dès lundi, ce sera à partir de 6 ans. C'est l'annonce surprise de ce tout début d'année. Reportage à Marseille sur le Vieux-Port, Hugo Charpentier.
En promenade avec ses enfants, Marie peine à cacher sa surprise.
Mais c'est vous qui me l'apprenez, donc je ne suis pas informée. On est en vacances, donc on n'a pas allumé ni radio ni télé. Donc bon, effectivement, on subit encore. En fait, on est un peu perdu dans tout ça, quoi. D'un côté, c'est bien, c'est une bonne mesure. Et d'un autre côté, pour eux, ils ont quand même du mal à respirer. Déjà à l'école toute la journée, si en plus aux activités extérieures, extrascolaires, ludiques, des musées, des choses, bon, bah, c'est voilà, un peu compliqué, mais bon, on n'a pas le choix.
Un avis partagé pour la mère comme pour le fils, Thomas, 9 ans.
Ça m'embête un peu parce que j'aime pas du tout le masque, mais des fois, c'est utile.
Et sur le Vieux-Port où je me trouve, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Marina l'apprend à son fils.
Tu te rends compte, lundi, il faudrait que tu portes le masque pas seulement dans la cour de l'école, mais partout. Ça te fait quoi ?
J'aime pas.
Pourquoi t'aimes pas ?
Parce que le masque, ça nous empêche de respirer.
Pour cette institutrice, la mesure est absurde.
En train de faire des sociopathes, quoi. Puis en plus de l'annoncer comme ça, je trouve que c'est choquant quand même pour eux, quoi. Voilà, c'est encore des restrictions et des restrictions. Bah, c'est dur, quoi.
Difficile à avaler pour certains parents, plus simple pour d'autres, ceux dont les enfants portent déjà le masque en toutes circonstances.
Et en politique, l'année 2022 débute sur une polémique et une discorde. La discorde concerne le drapeau européen déployé sous l'Arc de Triomphe pour célébrer la présidence française de l'Union européenne qui démarre aujourd'hui. Et ce drapeau de l'Europe au-dessus de la tombe du soldat inconnu fait réagir tous les candidats de droite à l'élection présidentielle. Une provocation pour Marine Le Pen qui annonce ce soir qu'elle va saisir le Conseil d'État. Éric Zemmour parle d'outrage. Valérie Pécresse demande à Emmanuel Macron de rétablir le drapeau tricolore sous l'Arc de Triomphe, si bien que Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, a dû rappeler ce soir dans une déclaration que le drapeau français sera évidemment réinstallé sous l'Arc de Triomphe. La polémique maintenant concerne la Légion d'honneur QV 2022. L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn et le président du Conseil scientifique Jean-François Delfrécy figurent dans la promotion du nouvel an de l'ordre de la Légion d'honneur. Agnès Buzyn, promu chevalier, Jean-François Delfrécy, promu commandeur, ont été distingués pour leur implication dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Bonsoir, Ilia Bergel.
Bonsoir.
Et pour Agnès Buzyn, la Légion d'honneur passe mal.
Oui, certains cadres du RN comme Thierry Mariani parlent de provocation car Agnès Buzyn est toujours mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui dans sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Une Légion d'honneur indécente pour le député La France Insoumise, Éric Coquerel.
C'est une preuve de plus d'une autosatisfaction par rapport à un bilan qui est pourtant très mauvais sur le plan sanitaire, rempli de contradictions, d'erreurs depuis 2 ans. Au moment même de la crise du Covid, c'était un ministère qui a accepté la fermeture de lits dans les hôpitaux, la dégradation de la santé publique.
Face à ces accusations, Emmanuel Macron a toujours défendu l'action de son ex-ministre, comme au mois de décembre lors de son interview sur LCI.
Nous étions conscients que ce virus était redoutable. La ministre de la Santé à l'époque avait vraiment alerté.
Ce soir, l'Élysée se refuse à tout commentaire officiel, mais rappelle la carrière d'Agnès Buzyn en tant que spécialiste des maladies du sang et des tumeurs, bien avant ses fonctions politiques. Regardez surtout de quels univers viennent les critiques, évacue sobrement l'entourage du président de la République.
Élie Habergel, merci. La France prend donc la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois, une période pendant laquelle les ministres français vont devoir faire avancer les compromis sur les principaux textes législatifs en cours de négociation à Bruxelles, comme la régulation du numérique, le SMIC européen ou encore le plan climat, période au cours de laquelle Emmanuel Macron va aussi tenter de faire adhérer ses partenaires à sa vision de l'Europe, une Europe plus souveraine et plus indépendante. Alors comment cette présidence française est-elle perçue par nos partenaires ? Angélique Bouin, notre correspondante à Bruxelles, a posé la question à Éric Maurice, porte-parole de la Fondation Robert Schuman.
Emmanuel Macron a mis la barre assez haut, on peut dire, lors de sa conférence de presse du 9 décembre. Donc les partenaires européens savent que la présidence française sera évidemment ce travail au sein du Conseil des ministres pour trouver des positions communes, mais également la présidence française sera un moment d'ambition pour l'Europe et de grands projets. Certains États membres sont un peu réticents à ces grands projets français, c'est assez traditionnel dans l'Union européenne, mais ils se retrouveront tous autour de la table pour en discuter. Et là, il faudra voir comment Emmanuel Macron peut obtenir des soutiens de pays comme l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas par exemple, ou l'Espagne, et comment il peut entraîner les 26 autres chefs d'État et de gouvernement à le suivre un petit peu dans cette réflexion pour essayer de réorienter, donner un nouveau souffle à l'Europe.
Éric Maurice, porte-parole de la Fondation Robert Schuman. Une nuit du Nouvel An plus calme, malgré un nombre de voitures brûlées qui reste important. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est félicité de la baisse du nombre de véhicules incendiés par rapport à 2019, de 874 voitures brûlées la nuit dernière contre plus de 1300 il y a 2 ans. Les violences contre les forces de l'ordre sont également en diminution. En revanche, il y a eu plus d'interpellations, 441 personnes interpellés et 381 placés en garde à vue. Une nuit plus calme, mais une nuit de paix armée. Et en Alsace, la situation a été marquée par des violences, Emmanuel Leclerc.
Sur un plan matériel, les dégâts en matière de véhicules détruits sont effectivement bien moins importants qu'en 2019, selon le ministère de l'Intérieur, qui a décidé de communiquer sur ce bilan qui reste impressionnant. 874 voitures ont été calcinées, dont une bonne partie par propagation des flammes, mais c'est en nette baisse par rapport à 2019, où 1316 véhicules avaient été incendiés. Gérald Darmanin a surtout remercié les policiers, les gendarmes et les pompiers qui sont intervenus durant toute la nuit, souvent en se faisant caillasser, accueillir avec des explosions de feux d'artifice lancés contre leurs véhicules, comme un 14 juillet ou Halloween. Mais cette année, comme c'était bien plus calme un peu partout en France, les unités d'intervention ont pu se concentrer sur les lieux connus d'embrasement. Résultat, 441 personnes interpellées, dont 381 placées en garde à vue. C'est une soixantaine de plus qu'il y a 2 ans. À noter que s'il n'y a pas eu d'incident majeur sur les Champs-Élysées à Paris, plusieurs centaines d'amendes pour non-port du masque ont été distribuées au cours de cette soirée du réveillon, 779 au total sur l'ensemble de la capitale.
Emmanuel Leclerc, une nuit du nouvel an marquée par 2 féminicides, des pistes privilégiées par les enquêteurs. Une militaire du camp de Font-Revault en Maine-et-Loire, âgée de 28 ans, a été tuée de plusieurs coups de couteau sur le palier de son immeuble. L'auteur présumé, également militaire, a été interpellé en milieu de journée. Et en Meurthe-et-Moselle, une femme de 56 ans a été retrouvée morte dans le village de l'Abri. Son conjoint a été placé en garde à vue. Selon le collectif féministe Nous Toutes, 113 féminicides ont eu lieu en 2021. Et ces 2 féminicides supposés résonnent avec l'appel du pape aujourd'hui à Rome, au Vatican. À l'issue de la prière de l'Angélus, le pape a délivré son message de paix et il a dénoncé les violences envers les femmes comme une insulte envers Dieu. Sur place à Rome, Olivier Tosseri.
Un message de paix, c'est celui que délivre chaque année le 1er janvier le pape. François a appelé le monde à retrousser ses manches pour œuvrer à la paix et assurer que la violence envers les femmes équivalait à outrager Dieu. Le pape a consacré son message à l'issue de la première prière de l'Angélus de 2022 à la nécessité de stopper la violence dans le monde à l'occasion de la 55e journée mondiale pour la paix. Auparavant, durant une messe dans la basilique Saint-Pierre, le pape avait dénoncé la violence envers les femmes comme une insulte envers Dieu. L'Église est mère, l'Église est femme, a-t-il estimé. Et pendant que les mères donnent la vie et que les femmes gardent le monde, faisons tous en sorte de promouvoir les mères et de protéger les femmes, a insisté le pape. Que de violence il y a à l'égard des femmes, a-t-il fustigé. assez blessé une femme, c'est outragé Dieu qui a pris l'humanité d'une femme. François a rappelé enfin que la paix suppose des actions concrètes et se construit avec l'attention envers les plus petits, avec la promotion de la justice et avec le courage du pardon. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir, bonsoir à tous.
2022 sera l'année du 400e anniversaire de Molière. France Inter propose un podcast exceptionnel, Molière, le chien et le loup, écrit par Philippe Collin. Et Christine, il y a aussi une autre proposition pour connaître les secrets de Molière, c'est celle du Centre de musique baroque de Versailles, Molière et la musique.
Vous allez découvrir les pièces de Molière comme vous ne les avez jamais entendues. Par exemple, comme ça, pour Le Malade Imaginaire. Je vous propose de suivre Nicolas Bucher, le directeur du Centre de musique baroque de Versailles, et d'entrer dans cet ex-podcast. Alors vous allez me dire ex-podcast, mais qu'est-ce que donc que ce mot ? Voici la réponse de Nicolas Bucher.
Ex-podcast. On sait qu'il n'est pas facile à dire. En même temps, il n'y a rien de mieux pour dire que c'est à la fois une expo et un podcast.
Et c'est un superbe dispositif, en l'occurrence, avec cette exposition en ligne, avec des documents, des illustrations d'époque et une série de podcasts. Et c'est une coproduction France Musique.
Alors, je précise donc que c'est à voir en ligne sur le site du CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles. C'est une mine d'or en matière de documents qu'on ne pourrait pas approcher vraiment dans une exposition réelle. De la musique, il y en a donc pour toute la vie de Molière, car Molière a toujours été accompagné de compositeurs. Les plus connus sont Lully, bien sûr, puis Charpentier, qui a composé pour lui la musique de son Malade Imaginaire, qui est en fait une comédie-ballet. Explication avec Nicolas Bucher.
Une grande partie de l'œuvre de Molière est conçue indissociablement liée à la musique. Ça vient aussi des rapports de Molière qui est issu en partie d'une famille de musiciens et de la manière dont on faisait du spectacle à l'époque. J'espère que cet ex-podcast permet de rappeler combien la manière dont on faisait du théâtre au XVIIe, au XVIIIe siècle n'a rien à voir à la manière dont on vit le théâtre aujourd'hui. Et que quasiment la première chose que Molière fait quand il fonde l'illustre théâtre, c'est d'embaucher des musiciens.
Alors, pour en revenir au Malade Imaginaire, il y a même un petit bout d'opéra dans cette pièce, une scène chantée entre les deux amoureux, Cléante et Angélique.
Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre, faut-il mourir?
Vous me voyez-t-il cise, triste et mélancolique, aux apprêts de l'hymen.
Merci Christine, c'était votre vie connectée avec cet ex-podcast sur le site internet du Centre de musique baroque de Versailles.
Donc en fait, ce qui est bien, c'est de travailler tous les matins et de dire « je vais regarder l'ex-podcast du Centre de musique baroque de Versailles. Je vais regarder l'ex-podcast du Centre de musique baroque de Versailles. » Essayez tous les jours et vous allez voir, ça va devenir complètement naturel.
Ben dites-moi. Merci Christine Siméon, Ma Vie Connectée.
Merci
à retrouver
beaucoup.
Sur franceinter.fr également.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
La météo, Jean-Pierre Hameau.
Demain matin, vous allez retrouver une bonne tartine de grisaille sous forme de brouillard et de nuages bas le long de la Saône et du Rhône, autour de la Grande Bleue et à proximité de la Garonne. Un ciel couvert avec de faibles pluies de la Bretagne à la Normandie, du centre au Hauts-de-France en passant par la région parisienne et partout ailleurs, le soleil sera encore de la partie. L'après-midi, notre perturbation peu active va se décaler vers le Poitou-Charentes, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, puis la Lorraine. Le vent de sud-ouest sera soutenu avec des rafales voisines de 60 km/h. Prévoyez un ciel de traîne avec des des averses et du vent le long des côtes de la Manche. La grisaille résistera autour du golfe du Lion ainsi qu'en basse vallée du Rhône. Les températures seront en baisse dans le sud-ouest et stationnaires ailleurs. Prévoyez 11 degrés à Dijon et Nîmes, 12 à Lyon et Marseille, 14 à Strasbourg comme à Paris et Nantes. Comptez 18 à Bordeaux et 19 à Biarritz. La semaine prochaine, le temps sera généralement perturbé. La neige est attendue en basse altitude sur les massifs de l'Est à partir de mercredi. Les températures vont se rapprocher des normales de saison jeudi.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.